Deux fusillades en un week-end et le débat sur les armes aux États-Unis se réveille. La première des fusillades dans un supermarché a fait 20 morts à la frontière mexicaine. La deuxième, 9 victimes dans l'Ohio. Peut-être que l'on peut faire davantage pour lutter contre cette épidémie, a reconnu Donald Trump. Nous irons aux États-Unis.
L'idéologue et ancien numéro 2 des Khmer Rouges est mort hier au Cambodge. Dans ce journal, nous ferons le point sur le tribunal qu'il avait condamné en 2014 à Phnom Penh pour crimes contre l'humanité.
Nous nous intéresserons aussi à la colère des syndicats de l'enseigne Tati en France. Reçus aujourd'hui au ministère du Travail, ils veulent comprendre pourquoi près de 190 postes seront supprimés.
Et puis nous irons à Berlin dans ce journal où les enfants retournent à l'école aujourd'hui. La rentrée des classes est échelonnée en Allemagne.
29 victimes d'armes à feu en moins de 13 heures aux États-Unis ce week-end. 9 personnes ont été tuées à Dayton dans l'Ohio dans la nuit de samedi à dimanche. 20 autres ont perdu la vie à El Paso au Texas le samedi matin. El Paso où le tireur s'est rendu à la police après la fusillade. De lourdes charges pèsent déjà contre lui, comme l'a affirmé John Bash, le procureur fédéral du Texas, c'était hier soir.
Nous menons une enquête méthodique, une enquête minutieuse, mais nous envisageons déjà des poursuites pour crimes haineux et utilisation d'armes à feu, des chefs d'accusation qui sont passibles de la peine de mort. Les faits semblent répondre à la définition que nous avons d'un cas de terrorisme intérieur. Ça veut dire que les faits ont été commis par un Américain sur le sol américain afin de terroriser la population. Et puisqu'il s'agit d'affaires de terrorisme, vous pouvez être sûr que nous donnerons une réponse judiciaire rapide et certaine.
Un crime raciste, donc, selon le procureur, qui se base notamment sur un document de 4 pages rédigé par le tireur. Il y présente son acte comme une réponse à l'invasion hispanique au Texas. Jusqu'à jeudi, les drapeaux américains sur les bâtiments officiels seront en berne sur demande du président Donald Trump. Il est accusé d'avoir provoqué par ses discours ce genre de comportement. Et c'est notamment l'opposition démocrate qui rouvre le débat sur les armes à feu, Gregory Phillips.
Hier soir, alors qu'il participait aux différentes veillées organisées un peu partout en ville, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Beto O'Rourke, natif d'El Paso, a pointé du doigt la responsabilité du président Trump, l'accusant de véhiculer des idées racistes menant à ce type de violence. L'auteur de la fusillade au Texas est âgé de 21 ans, originaire de Dallas. Il a fait 9 heures de route pour venir jusqu'ici à la frontière, tuer un maximum de Mexicains. C'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Le jeune homme est poursuivi pour crime de haine et risque la peine de mort. Quelques minutes avant de perpétrer ce massacre dans le centre commercial, il avait diffusé sur le net un manifeste de 4 pages dénonçant l'invasion du Texas par les hispaniques. Donald Trump, lui, promet que son administration fait déjà beaucoup pour lutter contre ce fléau. Le président s'exprimera tout à l'heure sur les fusillades depuis la Maison-Blanche. Ce lundi matin, le New York Post, le quotidien considéré comme plutôt proche de Trump, l'appelle à faire un geste courageux, à savoir interdire purement et simplement les fusils automatiques.
Gregory Phillips, l'envoyé spécial à El Paso au Texas de France Culture. Après les manifestations, voici la grève à Hong Kong. Le trafic du métro et des vols internationaux est perturbé ce matin. Une grève générale est lancée par les manifestants pro-démocratie pour accroître toujours la pression sur les autorités pro-Pékin. Ils se mettent dans une situation très dangereuse, a prévenu tout à l'heure une responsable du pouvoir en place. Elle accuse les manifestants de tenter de détruire la mégalopole asiatique, ce sont ses mots. La France condamne les interpellations d'opposants samedi dernier à Moscou quand l'Allemagne évoque, elle, la mise en péril d'élections libres et équitables en Russie. Avant-hier, près de 800 personnes, je vous le rappelle, ont été arrêtées dans la capitale russe alors qu'elles se rassemblaient pour défendre la démocratie à un mois d'élections municipales dans le pays. Il était l'idéologue du régime Khmer Rouge qui a semé la terreur au Cambodge entre 1975 et 1979. Nguyen Chea est mort hier à l'âge de 93 ans. Ancien bras droit de Pol Pot, il est responsable de la mort d'environ 2 millions de Cambodgiens. Il avait été condamné en 2014 à la prison à perpétuité, tout comme l'ancien président cambodgien, Khieu Samphan. Jeanne Sulzer est avocate. Elle a participé à l'instruction du dossier auprès de la justice cambodgienne il y a quelques années et elle analyse ce qu'il s'est passé depuis.
Il y a une certaine lassitude aujourd'hui au Cambodge à l'égard de ce tribunal qui a été très suivi au moment du procès de Doik, le directeur de S21, et puis au début du procès aussi de Nguyen Chia et de Khieu Samphan. Il est vrai qu'aujourd'hui, le procès est moins suivi, même si c'est un procès qui a fait l'objet de beaucoup de publicité et la galerie publique du tribunal a toujours été remplie de la population civile. Mais il y a une certaine lassitude due certainement à la lenteur, à la complexité de la procédure, mais aussi au fait qu'ils ont été donc jugés une première fois déjà à la réclusion à perpétuité. Aujourd'hui, ce qui se joue au Cambodge pour les parties civiles, puisqu'il y a près de 4000 personnes qui sont victimes dans ce procès, c'est tous les projets de réparation qui sont en cours et qui ont été vraiment intéressants. Donc il y a des critiques à faire de ce tribunal, mais il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites pour les victimes, parties civiles, mais aussi pour la communauté cambodgienne dans son ensemble.
Maître Jeanne Sulzer, interrogée par Nabila Hamel. Un accord semble avoir été trouvé au Soudan. Les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation ont convenu de former l'instance chargée de mener la transition politique dans le pays. Elle est baptisée Conseil souverain et elle sera formée le 18 août prochain. Le pouvoir sera alors transféré aux civils 4 mois après la destitution du président Omar el-Béchir et les manifestations qui s'en sont suivies. Il remplace l'Aquarius, qui n'avait plus de pavillon pour naviguer, l'Océan Viking, le bateau humanitaire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, est parti hier en mer Méditerranée. Il doit effectuer sa première mission de sauvetage au large de la Libye, et cela malgré l'incertitude autour des ports d'accueil et surtout la fermeture des eaux italiennes.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal. En France, maintenant, les syndicats de l'enseigne Tati seront reçus aujourd'hui chez Muriel Pénicaud.
Oui, au ministère du Travail, à partir de 10h tout à l'heure, 15 jours après l'annonce de la suppression de 189 postes, la fermeture également de 13 magasins, la cession de 26 autres. L'échange au ministère sera sans doute assez vif, Maxime Debs.
C'est à la demande des syndicats que cette réunion a été convoquée et les élus de Tati y vont ce matin déjà pour demander des comptes, à l'image d'Élodie Ferrier, secrétaire fédérale de la CGT Commerce.
Il y a 2 ans, quand Jiffy s'était positionné en tant que repreneur pour Tati, le gouvernement avait appuyé le dossier en disant que le projet était viable, que c'était un bon projet, et donc avait appuyé ce dossier-là en particulier pour que ce soit eux les repreneurs. Donc forcément, quand on voit aujourd'hui où on en est, on se demande bien où est passé ce magnifique projet.
À l'époque, la promesse faite au moment du rachat par Jiffy était de tout mettre en œuvre pour relancer l'enseigne, redonner du lustre à Tati et non pas tendre vers un PSE que les salariés, 15 jours après son annonce, n'ont forcément toujours pas digéré.
Il y a 2 ans, ils ont vraiment cru au projet et ils étaient heureux. Forcément, vous imaginez bien la déception qu'ils ont. Donc, il va falloir voir le périmètre de reclassement, voir tout ce qu'on peut faire pour maintenir les emplois.
Les syndicats qui vont également demander au ministère à ce qu'il veille à la survie du dernier site Tati que le repreneur dit vouloir préserver, celui dans le quartier Barbès à Paris. Mais désormais seul, une élue syndicale ne donne pas cher de sa peau.
Près de 500 personnes ont défilé dans le calme hier après-midi à Rouen en hommage à Steve Maya Canisso, ce jeune homme mort noyé dans la Loire à Nantes le 21 juin dernier, après une charge des forces de l'ordre au même endroit. Samedi, c'est-à-dire avant-hier, ce sont des milliers de personnes qui s'étaient rassemblées à Nantes. En ce lundi 5 août, c'est déjà la rentrée des classes. En Allemagne, 360 000 Berlinois retrouvent ce matin le chemin de l'école. Les élèves outre-Rhin ont 6 semaines de vacances pendant l'été et elles sont prises en décalé depuis 1964 en fonction des régions. Notre correspondant David Philippot nous explique pourquoi.
La première raison de ces vacances tournantes est pratique. Imaginez la saturation des autoroutes et des locations que provoquerait en Europe le déboulé en même temps des quelques 11 millions d'élèves allemands avec leurs familles. La seconde raison est pédagogique. L'élève doit se reposer, mais pas non plus tout oublier. Il n'existe d'ailleurs pas de cahier de vacances de ce côté-ci du Rhin. Mais un système qui pose problème avec la hausse généralisée des températures et Sarah, qui entre en CM2 dans une école franco-allemande, rêve déjà d'école buissonnière.
Moi, j'ai pas trop hâte d'aller à l'école parce que c'est encore chaud, on peut encore faire beaucoup de trucs, aller au lac, aller à la piscine, parce que la classe est très chaud.
Voire trop chaud, comme au mois de juin, quand le thermomètre a dépassé les 50 dans les salles de classe. Le règlement dit alors que les enseignants peuvent raccourcir l'heure de cours à une demi-heure et laisser les enfants jouer dans la cour. En Thuringe, l'été dernier, les profs avaient dû faire classe sous le préau et dans les parcs.
David Philippot en Allemagne pour France Culture. Le temps de ce lundi, comme à Berlin, il sera gris sur le nord-ouest de la France, gris et pluvieux. Partout ailleurs, le ciel s'annonce encore bien ensoleillé avec ce matin 21 degrés à Lille, 24 à Paris, 25 à Besançon et déjà 29 à Marseille.